Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Sixième méditation sur le livre des Cantiques des Cantiques et nous allons ouvrir le chapitre 5. Voilà, nous avions terminé sur les premiers mots du chapitre 5 et nous allons reprendre maintenant par le verset 2. Voilà. Alors, il y a un contexte tout à fait particulier que j'aimerais vous expliquer parce que c'est véritablement, le diagnostic que l'on peut poser sur l'Église d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas remettre les équivalences ou les similitudes entre le Cantique des Cantiques avec les personnages que nous trouvons dans ce livre et leurs correspondants dans le Nouveau Testament, Salomon, le roi, Tsunamite, la fiancée, la future épouse, Christ, l'Église, voilà, je l'ai dit et redit. Alors donc, nous allons lire à travers ce chapitre à partir du verset 2. Alors voilà ce que nous partagerons ce soir. C'est Tsunamite qui parle. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Voilà, c'est une belle chute dans la lecture. Alors, on va poursuivre. Le titre que nous pouvons donner, c'est « Les dormeurs », puisqu'il est question de sommeil. Et pourquoi ce titre? Tout simplement, c'est quand l'amour est en sommeil. Ouais, il peut arriver, c'est vrai, dans la vie d'un couple, dans la vie conjugale, que parfois, dans certaines circonstances, dans certains moments de l'existence de la vie, eh bien, il y a comme, une pesanteur, nous dirions, ou, quelque chose qui n'est plus tout à fait pareil, comme au départ. On pourrait, et on l'a dit, on le sait, on pourrait parler de la ferveur, des commencements aux fortes émotions. Ça, c'est être amoureux. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'amour aveugle, mais que le mariage rend la vue. Ça, vous le connaissez. Mais c'est vrai que c'est certainement peut-être une réalité, mais dans la question que nous abordons, c'est que les commencements de l'amour sont quelque chose d'extraordinaire. Entre un jeune homme, une jeune fille, et puis c'est le printemps finalement. Puis après, il y a la routine qui arrive, et voilà. Mais ce n'est pas pour ça que l'amour a disparu. Et il y a des périodes que nous pourrions appeler des temps d'accalmie dans l'amour. Voilà. Peut-être plus précisément, et on pourrait peut-être évoquer le désert, où il n'y a plus de souffle de vent. Voilà, il faut redécouvrir, il faut réinventer, il faut imaginer à nouveau, dans la complicité, toutes sortes de choses, période de lassitude, de routine, des habitudes. Alors il y a certainement dans tout cela des des solutions, et je pense que tous les couples passent par là à un moment ou à un autre. Et on ne peut pas se contenter de, avec nostalgie, des premiers émois sentimentaux ou affectifs, hein, quand on a rencontré celui ou celle qui est devenu, eh bien, notre compagnon de vie. Alors, ça fait partie des choses normales, il faut le dire. Alors, ce livre, ou ce chapitre, que nous allons découvrir, redécouvrir, et le livre dans sa totalité aborde un autre aspect important qui concerne l'Église. Et je voudrais le souligner d'une manière très claire. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous étions les uns et les autres tout feu, tout flamme. Nous étions amoureux. C'est vrai, découverte de l'Évangile, expérience, des expériences très fortes. Et puis il est arrivé un moment où les choses sont rentrées dans la normalité. Et nous sommes toujours là. Et le Seigneur est toujours le même, même si nous disons que nous ressentons pas tout à fait, les choses semblables comme au premier jour. C'est vraiment très très précis, vous allez voir. Précédemment, nous avions évoqué comment, dans les rendez-vous d'avant, comment Tsunamite s'était assoupie durant la longue absence de son bien-aimé. Son bien-aimé l'avait amené dans ses palais, il l'avait mis à sa table, ça c'est les émotions du début, et à un moment donné il a disparu le bien-aimé, parce que si vous avez remarqué dans le livre, il apparaît, il disparaît, en permanence, hein. Peut-être un petit peu les conditions de notre vie, hein, où nous avons des moments très forts avec Dieu, et puis des moments où il n'y a plus rien du tout, c'est comme ça, tout simplement. Alors, le bien-aimé est parti, et elle va s'assoupir, assoupie, certes, mais toujours sur ses gardes dans la promesse qu'elle avait reçue de son retour, le retour du bien-aimé. Vous remettez la même chose par rapport à l'Église. Il y a des moments où nous sommes assoupis, mais néanmoins nous n'avons pas oublié la doctrine du retour de Jésus-Christ, ce que l'on appelle l'eschatologie. Voilà, Jésus revient. Ça, c'est clair. Et nous en reparlerons tout à l'heure, les vierges sages, les folles, toutes vont s'assoupir. Cette fois, la situation semble plus préoccupante, car le temps passant, et c'est vrai que le temps use, les jours, les mois, les années, l'amour de Tsunamite s'est franchement refroidi. C'est ce que nous allons voir, et il s'agit d'un déclin sérieux, si nous voulons le juger de cette manière. Auparavant, elle s'était reposée dans sa maison, elle n'était pas totalement endormie. Elle s'était installée dans ses aises, c'est aussi quelquefois les problèmes de l'Église qu'elle rencontre. Maintenant, franchement, elle dort. C'est pas seulement un assoupissement, mais elle dort. Le sommeil a eu raison de son espérance et de sa vigilance. Et ça, c'est le grand danger qui guette l'Église d'aujourd'hui, comme l'Église de tous les temps, mais d'aujourd'hui en particulier, le sommeil. Alors elle dit « J'étais endormie » et il est ajouté comme pour une excuse « Mais mon cœur veillait ». Et nous allons voir la signification justement de cette déclaration « J'étais endormie ». Donc « Je dormais », nous dit Tsunamite. Comme l'Église n'est pas consciente qu'elle dort, ou elle peut dormir, ou elle a des occasions de dormir, sans qu'elle en soit tout à fait consciente. Il y a dans cette parole de Tsunamite une interpellation pour l'Église d'aujourd'hui à résister contre le sommeil. Et c'est pas facile. L'assoupissement, ce que nous pourrions appeler les somnolences spirituelles, c'est pas un sommeil naturel, mais on sait très bien que nous avons un ennemi qui sait très bien utiliser toutes sortes de soporifiques pour endormir le peuple de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Voilà, amener le sommeil. Quand c'est pas la guerre à outrance, eh bien à ce moment-là, il laisse dormir tout le monde, il est tranquille, et il peut faire finalement avec le peuple de Dieu ce qu'il veut puisqu'il dort. C'est probablement un des avertissements des plus significatifs de notre génération, surtout lorsque nous nous souvenons que nous sommes issus d'un mouvement de réveil que de s'assoupir, c'est quelque chose de terrible. Les uns et les autres, nous sommes nés à la vie de l'Esprit. Nous avons été saisis par le Seigneur. Il y a des choses extraordinaires que nous avons certainement encore dans notre mémoire et dans notre cœur. Mais attention, le danger est là. Autant le réveil, autant notre réveil personnel a été quelque chose de formidable, autant le diable va mettre la dose. Il va augmenter finalement eh bien, les somnifères. Ça, il faut s'y attendre. D'autre part, le sommeil, nous le savons tous, c'est une perte de conscience. Je sais pas comment vous en souvenez. Ben, vous savez comment ça se passe hein, tous les soirs. Hein. Quoi qu'en ce moment, c'est dur. Il faut dire que quand on dit je cherche le sommeil, on le cherche où? Il est là, mais on n'y arrive pas. Hein. Ça, c'est voilà. Donc, c'est une perte de conscience de la réalité de notre environnement. Alors, en principe, on dort, on ferme les volets, on éteint les lumières et puis on se met dans le noir. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et d'autre part, si le diable n'est pas parvenu à vaincre le peuple de Dieu par des luttes et des combats de longue haleine ou de forts combats, alors il sait très bien qu'il utilisera une autre technique éprouvée, c'est l'anesthésie. Ou finalement, eh bien, vous savez ce que c'est quand on est sur un bloc, dans un bloc opératoire, là on vous endort, mais alors brutalement, enfin c'est brutal, c'est rapide. Aujourd'hui ils ont fait des progrès parce qu'on ne sent rien. Et, hein, c'est quelquefois si on pouvait s'endormir comme ça pour partir de l'autre côté. C'est vrai que c'est assez particulier pour ceux qui ont été opérés, naturellement. Donc, l'anesthésie. Et il sait très bien qu'il va pouvoir endormir avec le malin espoir qu'on ne se réveillera pas. Son but, c'est sûr que c'est détruire l'œuvre de Dieu, c'est de tuer, de détruire, de ruiner la vie des hommes, et particulièrement des chrétiens, mais... ce qu'il va faire, et il le fait d'une manière très anonyme, silencieuse, c'est que quelque part, eh bien, nous restions dans notre état et que nous ne bougeons pas. Combien d'églises que nous appelons aujourd'hui des églises historiques se sont endormies depuis des siècles et des siècles? Et je peux vous dire que c'est vraiment c'est le grand sommeil, hein. Plus rien du tout. Sinon une liturgie. Sinon peut-être des dogmes pour réveiller un petit peu parce que bon, faut quand même pas tout oublier. Mais le reste, il n'y a plus rien. La vie de l'esprit a complètement disparu. Plus de mouvement, tristesse, silence, le froid, tout simplement. Alors, ça c'est son but. Je voudrais insister sur ce point. La période de sommeil correspond à la cessation de nos activités. C'est-à-dire que nous ne faisons plus rien en principe, voilà. Hein, tout à fait cessante, hein, naturellement. Mais le dormeur devient naturellement inconscient au point que dans un sommeil profond, tout ce qui se passe autour de lui le laisse indifférent. À moins que véritablement vous ayez un voisin qui se mette à mettre, qui met la chaîne à tue-tête ou une voiture qui est en train de klaxonner sous votre fenêtre. Là, vous allez peut-être vous réveiller parce que c'est quand même assez brutal. Mais autrement, toute notre vie s'arrête à ce moment-là. Il pourrait bien se passer n'importe quoi. Voilà, on dort tout simplement. Si on a un bon sommeil, on dort. Alors imaginons dans ces conditions, quand il s'agit d'un endormissement spirituel, avec les méthodes dont nous avons parlé, utilisées par le diable, je peux vous dire que le champ est libre à l'adversaire pour faire tout ce qu'il a envie. Non pas seulement pour une personne ou un individu, mais pour une église entière, pour un mouvement entier qui a connu autre chose. Alors à ce titre, Jésus nous raconte, dans la fameuse parabole du bon grain et de l'ivraie, et ce n'est pas pour rien que le mot ivraie a donné le mot ivresse. Et ça dépend des tempéraments, mais vous avez des gens, quand ils ont pris un petit peu plus ce qu'il faut d'alcool, ils s'endorment. Il y en a d'autres, ça les remonte, ça les rend agressifs. Hein. Mais il y a certains cas, je sais pas, bon, ça nous arrive pas, nous. Hein. Mais on s'endort. Voilà, l'ivresse, l'ivraie, tout simplement. Comment et quand l'ennemi est-il parvenu à jeter le désordre dans l'ouvrage? La réponse nous est donnée dans Matthieu chapitre 13, où il nous est simplement dit, Jésus introduit cette petite information dans le verset, dans sa parabole, il dit, mais pendant que les gens dormaient, souvenez-vous que dans la parabole des 10 vierges, elles dorment tous. Scandale. un moment donné, la voix se fait entendre au dehors, voici l'époux. Alors tout le monde, c'est le branle-bas de combat, tout le monde va essayer de prendre le matériel nécessaire pour aller rejoindre l'époux avec les lampes, mais il ne suffit pas d'avoir des lampes, il faut avoir de l'huile. Parce qu'une lampe sans huile, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est la vie de l'esprit. Je crois qu'il ne faut pas s'imaginer être plus fort que nous le sommes. Et c'est tous les avertissements qui nous sont donnés dans la parole, parce qu'il y en a eu d'autres avant nous. Aussi réveillés, voire aussi consacrés, se sont laissés tout simplement gagner par le sommeil. Et peut-être avec les ans qui passent, avec le temps qui passe, avec les décennies qui passent dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, il faut faire attention de garder véritablement la flamme allumée. Et notre lampe remplie d'huile, parce que nous sommes plus que jamais plus proches du Seigneur que tous ceux qui nous ont précédés naturellement. Nous avons un autre exemple de fête de sommeil. Quand les disciples étaient avec Jésus lors du dernier repas, ce que l'on a appelé naturellement eh bien, la chambre haute, où il y a eu la Sainte Cène, etc., tous étaient bien réveillés à ce moment-là, au moment où ils ont partagé le pain, ils étaient là autour du maître. Mais peu après, parce que ça n'a pas tardé, au moment où le repas était fini, Jésus leur dit « Voilà, maintenant il faut que j'accomplisse ma mission ». Et ils sont allés jusqu'au jardin de Gethsémané, et vous savez comment, très bien ce qui s'est passé. Et au plus fort de l'engagement, où Jésus était véritablement en agonie, et qu'il faisait monter vers Dieu ses prières, cette pathétique prière « Retire de moi cette coupe », au plus fort de l'engagement, qui est en train de mener eh bien, leur maître, il nous est dit d'un seul coup « Tous se sont assoupis ». Ils l'avaient suivi, mais ils se sont tous endormis, emportés par un étrange, et je voudrais souligner l'adjectif, et irrésistible sommeil. Ça, c'est curieux, hein. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais moi, j'ai fait l'expérience, hein, il y a des années, où nous étions dans une campagne, nous pourrions dire, d'évangélisation, et nous nous rendions, nous retournions chez nous, nous avions 60 km à faire, on était dans la voiture. J'avais un frère qui repartait sur une autre, dans une autre direction, dans son propre véhicule. Et franchement, et mon épouse pourrait le confirmer, parce qu'on l'a vécu tous les deux ensemble, il n'y en aurait eu qu'un, on pourrait dire, d'accord. Mais là, nous étions trois, dans deux voitures différentes. Et je me souviens, il était 14-15 heures, on rentrait à la maison. Il y a eu quelque chose qui véritablement nous a saisi à ce moment-là comme un sommeil, à tel point que je ne pouvais plus conduire. J'ai été obligé de me mettre sur le bord de la route. J'ai posé la même question donc à Myriam. Je lui ai dit, je ressens quelque chose, je me sens pas bien, j'ai envie de dormir, c'est pas possible. Et elles me disent, moi, c'est la même chose. Quand nous avons partagé avec notre ami qui était sur une autre route, il m'a dit, j'ai vécu exactement la même chose. Étrange sommeil. Bon. On était en campagne hein, d'évangélisation, mais c'est pour dire que quand on vous parle d'assoupissement, il y a un assoupissement naturel, mais il y a un assoupissement spirituel. Et très très fort, après on s'est réveillé, hein, naturellement, mais c'était quelque chose, c'est une expérience qui nous a marqué pour la vie, je crois. Ah oui, surtout que bon, l'un, l'autre, et ensuite le troisième. Et quand on a partagé ça, on s'était, et nous étions dans un terrain extrêmement occulte. Il faut le dire, hein, où il y avait énormément d'occulto-religieux. Et voilà l'expérience que nous avons faite quand il est parlé d'étrange ou d'irrésistible sommeil. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Ils ne comprenaient pas, Jésus était en prière, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils dormaient. Jésus leur reprochera une première fois, il leur dira en substance, « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. » Jésus reviendra une seconde fois, puis une troisième fois vers eux, mais rien n'y a fait. Où il est ajouté, il les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient appesantis, nous dit l'évangile de Matthieu. Marc précise, ils ne purent que lui répondre que c'était quelque chose qu'il ne pouvait s'expliquer naturellement. Ils ne surent que lui répondre. Alors, quel est ce mystérieux sommeil? Je le rappelle, il existe un sommeil naturel. Il y en a un artificiel quand on prend des somnifères, mais ça c'est autre chose. Mais il existe aussi un sommeil spirituel. Luc donne une raison. Jésus vint vers les disciples, toujours dans le contexte de Gethsémané, vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. C'est bien précisé. Il les trouva endormis, non pas pour telle ou telle raison, mais là il est précisé dans Luc, de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que... Alors après, naturellement, la suite, on la connaît. Qu'est-ce qui peut se passer? Quand il nous est dit que le diable aveugle l'intelligence des hommes, ils ont leur entendement obscurci. Ils sont dénaturés au niveau de leur conscience. Eh bien, c'est le phénomène qui nous est dépeint. Quand il nous est dit également que l'adversaire travaille afin qu'il ne voit pas briller l'évangile de Christ qui est la gloire de Dieu. C'est tout ça, c'est dans Corinthiens. Vous le retrouverez naturellement. À l'image de Tsunamite qui nous dit « Je me suis endormi, mais voilà, je me suis endormi, comme l'Église parfois, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Alors je voudrais attirer votre attention sur « mon cœur veillait ». Il existe un sommeil réparateur. C'est vrai. Un sommeil réparateur de nos forces, toutefois le sommeil en question dont nous parlons est un sommeil d'agitation. On peut dormir, et c'est ce qu'on appelle mal dormir. Hein. C'est toute une science, hein, le sommeil. Hein. C'est quelque chose. Hein. Et sommeil d'agitation, le sommeil qui ne fait pas de bien. Et les gens qui font de l'anxiété savent très bien, ils dorment. Ils dorment peut-être à force. Ils dorment peut-être à cause de médicaments, mais quand ils se réveillent, ils sont terribles. Et pour ceux qui sont passés par là, moi, c'était quelque chose de terrible le matin pour se réveiller. C'est affreux. On retrouve la réalité. Et pourtant, la nuit n'a pas été bonne. On est troublé, on est confondu. Nos pensées n'ont cessé, même si on n'était pas conscient, de s'agiter et tout cela. Ça, c'est un mauvais sommeil. Ça ne fait pas de bien, ça ne repose pas. Et on se fatigue davantage. C'est tout un équilibre de vie, hein. Moi, j'ai quelquefois, quand je parle avec des gens qui sont un petit peu tourmentés sur le plan psychologique, je leur dis, bien écoutez, il y a deux choses importantes. C'est le sommeil et manger. Hein. Ouais, c'est meilleur que tout le reste. Mais bon, c'est comme ça. Remarquons au passage que Tsunamite ne dit pas « mon esprit veillait ». Elle dit « mon cœur veillait ». Nuance, et vous allez voir. Elle parle de son cœur, donc de ses sentiments, de son affect, de son âme. Je rappellerai que l'homme est un être tripartite. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Or, Tsunamite ne parle pas de son esprit, elle parle de son âme, de son cœur, mon cœur veillé. C'est sa personnalité. C'est ce qu'elle est. Par-delà toutes les apparences de beauté qui étaient la caractéristique de cette belle jeune fille. Mais elle parle de son âme. L'éveil que nous recommande le Seigneur est celui de l'esprit. Et il ne faut pas se tromper. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, hélas, qui ont bien commencé, qui aujourd'hui sont en sommeil. Je crois qu'il y a des églises dont j'ai fait référence de l'histoire, qui ont commencé certainement avec un souffle de l'esprit, mais qui sont devenues des églises qui dorment. Sinon, qu'il ne reste plus que les apparences. Apparence religieuse, apparence, finalement, de tradition et tout ce que vous voulez. Mais l'esprit n'est plus là. Il n'y a plus l'esprit. Or, le Seigneur nous recommande que la véritable identité d'un enfant de Dieu, c'est son esprit. Son esprit qui va dominer son âme et qui va dominer son corps. Si je dois vous rappeler cette parole formidable de l'apôtre Paul, il nous est dit « soyez fervents d'esprit ». Oui. Ne vous enivrez pas de vin, ça fait dormir. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous connaissez les paroles de Paul. Si nous voulons chercher dans l'Ancien Testament, nous allons trouver aussi des références de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit avant qu'il ne paraisse. Il nous est dit à plusieurs reprises, l'Éternel réveilla l'esprit d'un païen qui s'appelait Cyrus, qui a permis aux Juifs de retourner dans leur pays à Jérusalem. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla l'esprit de Josué. Il réveilla l'esprit du peuple d'Israël dans le prophète Asée. Et puis il y en a d'autres comme ça. j'ai raccourci. Les disciples s'étaient endormis de tristesse. C'est un réflexe fréquent, cet endormissement de tristesse lorsque nous sommes aux prises avec l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Tristesse. Et il faut réagir contre ça. Si nous ne voyons pas, si nous n'avons pas cette perspicacité et ce discernement, le diable va nous manipuler et il va nous rendre encore plus malheureux. Mais si nous le dénonçons au nom de Jésus, il va reculer. Je l'ai vu chez les autres, je l'ai vu pour moi-même, dans certaines atteintes subtiles, dangereuses, invisibles, où je me laissais descendre dans des états de dépression. Et au moment où il y a une réaction spirituelle à ce moment-là, eh bien, on a vu la différence. Parce que c'est quelque chose qui est tellement, je dis c'est diabolique. Je veux pas voir le diable partout, mais il travaille pour rendre les gens captifs, les mettre en prison. Et les disciples étaient endormis de tristesse. Ils étaient tombés dans une vie insipide, dans quelque chose qui n'avait plus de sens, plus de couleur, plus de goût. Voilà. Parce que ça, c'est le sentiment. Ou toute autre chose qui accable notre vie, qui anesthésie nos forces, qui neutralise notre courage ou notre détermination, notre foi de réaction, et qui enlève le pouvoir de la conscience ou qui la modifie, c'est-à-dire que je comprends tout de travers. Ouais, je comprends plus, ou je comprends tout de travers. Ceci est un mauvais sommeil, et il faut prendre conscience qu'il y a des sommeils qui sont envoyés par l'ennemi pour faire de nous des malheureux. L'Esprit de l'Éternel m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les prisons et les portes de ceux qui sont captifs, ceux qui sont opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce. Eh oui. Il faut prendre conscience seulement à travers ce texte. Tsunamite, elle nous enseigne tout ça, ce qui deviendra une véritable réalité ensuite dans l'Évangile, qui se concrétisera dans l'Évangile. Un mauvais sommeil. On peut dormir, mais combien de fois n'avons-nous pas été agités, dérangés et perturbés avec un cœur éveillé? Mon cœur est éveillé, mais mon cœur est malade. Le cœur de Tsunamite était malade. Il était malade d'amour. Ce qu'il nous est dit, hein? Malade. Cœur éveillé. Trop lourd. Trop chargé. Quand nous entendons Jésus, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes, qui nous empêche de nous reposer réellement. Le vrai repos, nous l'avons trouvé lorsque nous nous sommes convertis. Moi, je sais de quoi a été fait ma conversion. Mais aujourd'hui, ça peut être le bonheur d'un chrétien ou d'une chrétienne de retrouver ce souffle. L'ennemi nous écrase. Il peut le faire physiquement, avec des douleurs terribles, indicibles, dans notre corps, dans nos membres, dans nos organes, mais il peut le faire aussi dans nos âmes. Et là, il faut réagir. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. On peut dire parfois, dans nos veilles insomniaques, ce que nous rapporte le verset 2, « Car ma tête était couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le méli-mélo. Voilà, toutes ces choses de nos pensées, de nos angoisses et de nos sentiments fait que l'on peut dormir sans dormir, sans réellement dormir, du repos qui vient de Dieu, qui nous donne véritablement, eh bien, la réparation de nos forces et de tout ce que nous avons besoin, de nos énergies et de notre vie spirituelle. Et ça devient un cauchemar. On a tous fait des rêves. Quelquefois, dans certains, autant que je suis pas un rêveur, mais quelquefois ça m'est arrivé, quand le rêve se termine, on voudrait pas le quitter, on voudrait que ça continue comme ça, c'était tellement beau. Mais par contre, le cauchemar, on s'en souvient. Hein. Affreux. Terrible, le cauchemar. Alors, il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Alors, il y a des mots là, hein. Attention. Dans cette image, Tsunamite sommeille elle s'est refroidie. La voix du bien-aimé, pour nous dire que la parole sera toujours le moyen par excellence de secouer la torpeur et de réveiller pour Tsunamite ses affections endormies. Ouais. C'est la parole de Dieu, et je voudrais encore insister sur un fait, c'est que la parole de Dieu est à la base de tout. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Dieu est rédemptrice, et à partir du moment où nous ne nous appuyons plus sur la parole de Dieu, bien, l'esprit ne pourra jamais agir. C'est pour ça qu'on a remplacé finalement la vie de l'esprit dans certaines églises par toutes sortes de traditions, etc. Mais ça ne concerne que l'âme. Par contre, la parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole est esprit. Et c'est la voix qui se fait entendre, la voix du bien-aimé, la voix de Jésus, la voix de Dieu aux âmes, ce que nous sommes, nous également, en tant que ses disciples et également ses enfants. N'est-ce pas précisément par la parole de Dieu et la parole de l'Esprit, comme cela nous est démontré dans les lettres de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, quand il nous est dit que l'Esprit dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et par exemple, dans le chapitre 3, quand Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, une église qui sommeille. Une église qui sommeille dans un rêve qui n'est qu'une illusion. Si vous reprenez le texte, vous allez le découvrir. Et cette voix de Dieu, la voix de Jésus, qui va la tirer de sa torpeur ou de sa tiédeur mortelle, parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es pas bouillant, parce que tu dis que tu es et que tu n'es pas, parce que tu penses que tu es riche et finalement tu es pauvre, parce que tu dis que tu vois mais tu es aveugle, et puis toutes sortes de choses comme cela. Nous voyons que la parole est donnée par l'Esprit pour qu'elle se réveille. Parce qu'il y a toujours une offre de repentance. Il y a toujours une offre et une invitation à un retour vers Dieu. Et c'est vrai pour toutes les autres lettres de l'Apocalypse. L'époux frappe à la porte, nous l'avons vu. Et un mot, il dira « Ouvre-moi !» Si quelqu'un frappe à la porte, je frappe à la porte pour nous, pardon. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, alors à ce moment-là, je rentrerai. On a besoin de faire rentrer tout à nouveau le souffle de la vie de l'esprit dans nos, pour nous sortir de nos torpeurs et de nos endormissements, qui sont le fait, peut-être de nos erreurs, peut-être là de toutes nos habitudes et nos torpeurs, mais également accentuées par une action de l'ennemi pour nous amener à bien dormir, à bien nous endormir comme ça. Il est tranquille, on ne fait plus rien, et les choses sont dites. Ouvre-moi pour tous ceux et toutes celles qui se sont éloignés, la voix, quelle qu'elle soit son expression, soit un message de l'Évangile, soit une prédication, soit une prophétie, soit une parole des uns et des autres échangée avec quelqu'un qui en a besoin, quelle que soit son expression, a un double message. Elle est remplie de tendresse quand il est dit, écoutez, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, mon colombe, ma parfaite. Eh bien, Dieu nous parle comme ça, figurez-vous. Oui. Il veut nous réveiller. Quand une maman va dans la chambre de son petit garçon ou de sa petite fille pour qu'il aille à l'école, comment s'y prend-elle? Elle le prend pas en le secouant, en remettant tout en l'air et tout ça. Elle le caresse en lui disant, mon chéri, ma chérie, il est temps de te réveiller. Non? Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Nous sommes ses enfants, d'accord? Donc, elle est remplie de tendresse et rappelle à l'égaré le prix de ses souffrances. Le bien-aimé a bravé la nuit, il a bravé le froid, les ténèbres et la rosée. Ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Mais il y en a un qui peut nous dire ça, c'est Jésus. Hein. Oui. Lui, il a traversé la nuit pour que nous n'ayons pas à traverser la nuit. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort pour que nous passions pas par la vallée de la mort. Souvenir de ses souffrances. Alors, Tsunamite, qu'est-ce qu'elle répond dans cette affaire? Elle le dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Ah oui, parce qu'elle est habillée avec un vêtement de nuit. Hein, quand on est en pyjama, si vous pouvez respecter l'expression, je décode, hein. Voilà, il faut que je me rhabille. Donc, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Qu'est-ce que nous voyons là? Nous allons découvrir encore quelque chose. Si le Seigneur vient toujours vers nous le premier pour nous réveiller, un problème se pose à nous lorsque nous l'entendons nous appeler. Et si nous regardons au Tsunamite, nous constatons que elle ne reste pas insensible à l'appel de son bien-aimé, mais elle se montre incapable de secouer sa torpeur, comme quelqu'un qui se réveille après une mauvaise nuit. On est complètement choqué. Alors la question se pose, comment sortir et se débarrasser de la paresse ? Associer. Dormir, la paresse. Parce que vous savez que longtemps dormir, si vous le retrouverez dans le livre des Proverbes, longtemps dormir donne des habitudes de paresse. Il y a des gens qui ont perdu le goût de l'effort, le goût de la réaction, de la combativité. Il y a des églises que nous pourrions dire la même chose. Et peut-être l'église dans sa généralité a perdu peut-être, comme on dit, la tchatche, comprenez ? Parce que on a laissé un petit peu les choses comme ça. Et quand il faut faire un effort pour se lever, voici l'époux vient, alors à ce moment-là, bien, on n'est plus capable de répondre. Tsunamite s'est habitué à la mollesse et trouve difficile de se revêtir et de salir ses pieds maintenant. Et pourtant, elle sait que c'est lui. Elle s'interroge par deux fois et dit « Mais comment ?» Pour répondre à cet appel, cela demande de l'énergie et du renoncement. Et ça, c'est aussi un autre principe du royaume de Dieu, pour les disciples, pour les chrétiens, pour les églises, c'est de renoncer à soi-même. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça va plutôt dans l'autre sens. Que la personnalité humaine, dans le christianisme, dans notre christianisme, grandit de plus en plus et Jésus diminue. Alors que les principes sont remis en place par Paul quand il dit « Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui me donne l'énergie nécessaire pour me lever, laver, salir mes pieds, si c'est nécessaire, pour aller à sa rencontre. » C'est tout le problème que le chrétien rencontre après un temps de léthargie spirituelle, dont le diable a bien préparé, finalement, le piège. La parole de Dieu entendue a stimulé la volonté de Tsunamite. Elle a saisi son cœur, mais maintenant l'effort de se tenir debout vient être grand. Et cet effort nous revient aussi à nous et l'effort se manque, comme quelque chose, comme ce que nous pourrions dire, comme si nous étions ankylosés. C'est terrible, hein, quand vous savez ce que, on dit ça, mais je ne sais pas, c'est certainement aucun, il n'y a aucune signification médicale, mais vous savez quand on est mal, quand on a mis un bras de travers ou une jambe de travers, on a des fourmis, vous savez. Qu'est-ce que ça fait mal? Ouais, on est ankylosé. Eh oui, ben c'est un petit peu la douleur quand il faut réagir à ce moment-là. La flamme du premier amour, lettre de Jean, première lettre de Jean à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais repens-toi. Il y a toujours un secours. Il y a toujours une possibilité. Qu'est-ce que tu as fait de ta flamme? Qu'est-ce que tu as fait de ton premier amour? Et désormais, ce premier amour n'est plus qu'un lumignon qui fume, qui va finalement eh bien, disparaître. Alors il y en a un qui est capable de souffler sur ce lumignon. C'est pour ça que je voudrais le préciser encore, et je vais bientôt terminer, mais ce que je voudrais préciser, c'est que quelquefois nous jugeons sévèrement. Parce que bon, un frère ou une sœur n'est pas tout à fait dans notre optique. Mais tant qu'il y aura un lumignon, il faut encore l'aider à remonter la pente. On en aura besoin peut-être nous-mêmes un jour. Ouais. Soyons bons. Parce que le lumignon, tant qu'il y a la lumière, elle est peut-être si petite, ça fume. Hein, mais, vous savez, c'est Dieu qui répond à tout cela, c'est pas nous. Et je crois que il est capable de souffler fort. Et quelquefois, on a vu des retours de fils et de filles prodigues. On a vu des retours en pleine charge, nous pourrions dire. De gens que l'on croyait complètement égarés, on n'avait pas vu depuis longtemps, ils reviennent. Et ils reviennent avec une nouvelle vie, avec un nouveau souffle. Alors, que Dieu bénisse, hein, et que Dieu bénisse son Église, et que Dieu nous bénisse les uns et les autres, hein, dans tout cela. Alors, qui va nous guérir de nos langueurs? Écoutez, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Précédemment, l'époux avait parlé, sa voix, sa parole avait éveillé Tsunamite. C'est ce que nous avons dit il y a un instant. Mais parfois, il faut davantage que la voix et la parole. pour que nous nous rendormions pas. C'est ça la nuance. Hein. Elle s'est réveillée, elle s'est éveillée. Il faut plus que cela. Il faut quelque chose, comme il nous est dit, mon bien-aimé a avancé sa main. Il avait parlé, mais maintenant il avance sa main. C'est un appel silencieux à avancer sa main. Ça se voit. Ça s'entend pas, ça se voit. Que cette main de Dieu qui s'avance vers nous, ou dans le renouvellement inattendu d'une circonstance, d'un événement de notre vie, d'une situation, d'une rencontre inopinée, d'une façon ou d'une autre, alors que nous nous sentons si indignes, que nous nous sentons si engourdis ou culpabilisés. Il nous a parlé, nous nous sommes réveillés, mais attention, nous sommes prêts à nous rendormir. Alors à ce moment-là, il va tendre sa main. Il va aller plus loin. Vous savez, cette main qui a touché le lépreux, jamais on n'aurait fait une chose pareille. Jésus touche le lépreux et le guérit. Il se contente pas de lui dire, mais il va le toucher. Dieu réitère son appel. Ouvre-moi, je suis là. Réveille-toi, je t'aime encore. Reviens. Si Dieu s'approche sans jugement, je dis bien sans jugement, observez la délicatesse de Jésus avec qui éveille les consciences. Nous le trouvons chez la pécheresse, vous savez, dans la maison de Simon. Nous le voyons avec la Samaritaine, qui avait aussi encore des états de service. Et puis également chez la femme adultère. Il était question de main, là, avec des pierres. Et il écrivait aussi sur le sable. Alors, si Dieu s'approche de nous sans jugement, est-ce que nous allons rester insensibles? Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. C'est pourquoi Tsunamite peut dire « Mes entrailles sont émues à cause de lui ». Est-ce que nous avons besoin d'être tout à fait éveillés et que nous avons besoin de nous émouvoir encore quand c'est Dieu qui nous parle et quand c'est Dieu qui nous touche? Que Dieu nous donne et nous redonne cette sensibilité à sa présence ou à sa parole? Oui, mes entrailles sont émues à cause de lui. Souvenons-nous de Pierre au moment de son renouement. Cela nous est rapporté dans Luc chapitre 22. Il nous est dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Étant sorti, il pleura amèrement. C'était pas une main, c'était un regard. Mais ce regard a été plus persuasif que toutes les paroles. Jésus voulait dire à Pierre, tu m'as renié. Tu m'as oublié, tu m'as abandonné, toi mon ami, toi que j'ai pris à la première heure. C'est la main qui s'avance, c'est le regard qui vient vers nous, en quelque sorte. Où Jésus voulait dire à Pierre, malgré que tu aies fait tout cela, moi je voudrais te dire, Pierre, je t'aime encore. Je t'aime toujours. Quel regard, par quel geste, par quelle attitude et quelle approche aidons-nous un frère ou une sœur à revenir, à se réveiller, voire à se repentir? Si c'est pour lui dire « Reprends-toi » et vous l'écrasez, il ne va pas se repentir. Ça m'étonnerait. Chacun, nous pouvons être cette main, ou ce regard, ou cette parole du Seigneur, qui s'avance, et de la manière dont elle sera dirigée vers le destinataire, lui, ce destinataire, sera et comprendra le prix qu'il représente aux yeux de Dieu, dût-il pleurer comme Pierre l'a fait par rapport à ses fautes. Parce que ça passe par les pleurs, à un moment ou à un autre. Les pleurs, ça réveille. Et les pleurs, ça réveille et ça lave. Ça lave notre âme. J'ai tant pleuré. On le chante. Quand David, et c'est une parole que j'aime beaucoup, quand David écrira dans un psaume, mes pleurs remplissent l'outre. Alors, pleurer à tel point, avoir autant de chagrin et de peine pour remplir une outre, c'est quelque chose, hein. Je termine maintenant. Le réveil, à quelque niveau que nous le comprenions, personnel, d'une église, ou d'une façon ou d'une autre, même celui de la conscience s'accompagne d'une bonne toilette, si je peux le dire de cette manière. Elle revigore, les lames de la repentance ont toujours réveillé les âmes. La repentance précède tout réveil. Je m'arrête là, nous verrons la suite. La prochaine fois, mais il y a encore tellement de choses à dire dans ce livre des Cantiques des Cantiques. Alors la prochaine fois, je voudrais simplement vous dire, que ce sera le mercredi 21 août à 20h, et le thème sera le langage sublime de l'amour. Et je termine sur cela, laissez-moi vous lire deux ou trois petits passages, et mesdames, si vous dites ça à votre mari, il va être heureux, écoutez bien. Le langage sublime de l'amour. Qu'as-tu, mon bien-aimé, plus qu'un autre ? Ô la plus belle des femmes, qu'as-tu, mon bien-aimé, de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi ? Alors elle le dit. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue d'entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes adorantes. Ses lèvres sont l'hélice d'où découle la myrrhe, etc., etc., etc. En tous les cas, si vous nous dites ça, on sera vraiment heureux. Que Dieu nous bénisse et on termine par la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta belle parole. Merci parce que nous n'avons fait qu'effleurer, Seigneur, un trésor. Nous n'avons fait que survoler, Seigneur, des merveilles. Parce que qui pourrait expliquer l'amour ? Qui peut parler, en effet, comme notre Dieu, à travers sa parole, eh bien, nous a parlé de l'amour. Nous a parlé de l'amour de Christ pour son Église et de l'Église pour celui qui est son sauveur. Mais Seigneur, nous croyons que les choses ne sont pas égales. Toi, tu aimes parfaitement et nous, nous aimons tellement faiblement. Alors merci Seigneur de ce que tu nous enseignes tout cela pour que nous retenions la leçon et que nous puissions grandir dans l'amour. Merci mon Dieu, merci Jésus et réveille-nous de notre sommeil et de nos engourdissements spirituels. Merci notre Dieu. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.